Mon rêve au départ, ça aurait été, c'était assez immodeste, de prendre le relais un peu de Maurice Leblanc et de Jean-Claude Leblanc quand ils ont publié, enfin, quand l'un a préparé et le second publié dans les cahiers naturalistes, la célèbre bibliographie de Zola dans la presse française. Et autant le dire maintenant, je n'ai pas complètement réussi à réaliser ce rêve pour des raisons techniques, notamment auxquelles je reviendrai. Et puis je dois dire aussi tout de suite que le titre qui m'a été proposé, Zola figure mouvementée, eh bien, il ne me convient plus si bien non plus. Une fois que j'ai commencé ma traversée dans les textes, je montrerai en effet aujourd'hui que la présence de Zola dans la presse contemporaine est moins celle d'une figure mouvementée que peut-être de ce que j'appellerais une figure patrimonialisée. Et donc, à l'idée de mouvement, je substituerai plutôt l'idée de circulation. On verra les nuances. En effet, au tournant des années 90, il semble bien que la figure de Zola ait dans la presse acquis le statut de monument national au terme d'un processus donc de patrimonialisation dont les médias se sont fait non seulement l'écho, mais sont aussi d'importants contributeurs. Qu'est-ce que cela veut dire, cette notion de patrimonialisation? Ça veut dire que deux logiques se succèdent. La logique de l'héritage, un héritage intime et collectif à la fois, logique qui préside à la bibliographie des Leblanc père et fils. Eh bien, à cette logique de l'héritage se substitue un fonctionnement différent que j'appellerais un fonctionnement de filiation inversée. Cette notion de filiation inversée, je l'emprunte à Jean d'Avallon, qui, dans un livre intitulé Le don du patrimoine, la définit ainsi. La filiation inversée, c'est une relation au passé qui renseigne à la fois sur le passé, mais surtout sur l'interprétation contemporaine du lien social entretenu avec ce passé. Donc, de l'héritage à la filiation inversée, c'est ainsi que je vais interroger aujourd'hui la présence de la figure zolienne dans la presse du XXe et du XXIe siècle. Cela correspond à un processus donc de patrimonialisation qui répond à trois principes majeurs que je vais essayer d'exposer. D'une part, la mise en œuvre toujours recommencée d'un devoir de mémoire, et cela, l'interrogerai sous le titre Zola institué. Ensuite, la mise en œuvre d'un travail d'actualisation médiatique, et cela je l'appellerai Zola actualisé. Et enfin, ce que j'appellerai la nationalisation de l'écrivain. Et là, je parlerai de Zola pacifié. Alors, je commence par Zola institué, le devoir de mémoire zolien. Je commencerai par citer quelques articles publiés par le quotidien L'Humanité en 2002 pour le centenaire de la mort de Zola. Nous lui devons tout, c'est fou ce qu'on lui doit. Au tournant du XXIe siècle, il semble bien, ces citations en témoignent, que le principe de la dette soit acquis. Et c'est exactement cela, le principe de la filiation inversée. Il s'agit moins de recevoir un héritage, ce qui est la logique de l'héritage, que de se déclarer positivement héritier par un geste positif et auto-instituant. Je cite encore un article Jean-Pierre Leonardini dans un dossier, donc ce dossier spécial Zola du quotidien L'Humanité, 30 septembre 2002. La dette envers lui est inestimable. Et d'énumérer dans cet article la liste quasiment infinie du legs dont Zola, sans doute, lui-même aurait été surpris. Donc voici ce qu'on lui doit, c'est fou ce qu'on lui doit. Je cite, toute l'école du roman américain, Strindberg, l'art de la mise en scène théâtrale, et même, je cite encore, ces autres arts de la représentation auxquels le naturalisme a donné, je cite, des assises crédibles, le cinéma, la télévision. Avant de conclure, on doit tant à ce lutteur de grande classe déguisé en bourgeois à lorgnon. Alors, le long processus historique par lequel Émile Zola devient un écrivain légitime et célébré n'a bien sûr pas attendu le tournant des années 2000. Et je renvoie au livre que Alain Pagès avait publié en 1993 chez Nathan, Bilan critique, donc Émile Zola, Bilan critique, qui avait déjà posé les premiers jalons de l'institutionnalisation de Zola, qu'il situe, ou que je situe, moi, en le lisant véritablement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la décennie des années 50, Donc, moment où successivement se tient l'exposition du cinquantenaire à la BNF, 1952, la présence de Germinal au programme de l'agrégation, 1954, la fondation des cahiers naturalistes, 1955, et enfin l'édition en Pléiade des Rougon-Macquart dans la décennie 1960. Alors, on pourrait citer tous ces lieux de mémoire où s'est stabilisé l'héritage de l'écrivain. Maison d'écrivain, édition complète de luxe, exposition monographique, programme scolaire, etc. Le rôle de la presse dans tout cela est spécifique. Les médias vont mettre en œuvre le fonctionnement relationnel de ce patrimoine. Ils vont incarner au présent la relation avec cet homme du passé qu'on déclare mémorable. Et donc, ce que fait la presse, c'est de conjuguer les deux valeurs qui, selon l'historien autrichien Alois Riegel, font la valeur du monument, double valeur donc du monument, sa valeur historique d'un côté, c'est-à-dire tout ce qui suppose une connaissance scientifique du monument, une culture spécifique, et d'autre part, donc contre la valeur historique, la valeur d'ancienneté. Valeur d'ancienneté qui, elle, met en jeu la sensibilité et l'affectivité qui s'adresse non pas aux spécialistes, mais aux masses, à tous les individus sans distinction de niveau culturel. Quand on explore la présence de Zola dans la presse contemporaine, eh bien, on constate la mise en œuvre de cette double valeur. Alors, un petit point technique, j'ai voulu faire une recherche numérisée, enfin numérique, je me suis un peu équipée des outils numériques, et j'ai donc fait une recherche sur la base de données Europress, qui agrège les journaux depuis 1944, des titres quotidiens nationaux, régionaux, hebdomadaires et des magazines. Alors, quand on interroge l'institutionnalisation de la figure zolienne dans la presse française, on constate un double phénomène. Un phénomène de dilution et d'extension de ce Zola institué. Alors, dilution d'abord. Le chercheur est d'abord émerveillé quand il fait une recherche sur Zola dans ce corpus. Je vous donne un exemple de chiffre. Quand on tape Émile Zola, on a 43 440 résultats pour les seules années 2002-2010. Et finalement, à cet émerveillement succède assez vite la déception. Car qu'est-ce qu'on trouve dans ces 43 440 résultats? Eh bien, ce qu'on trouve, c'est essentiellement le nom Émile Zola dissocié de l'œuvre zolienne. Voici ce qu'on trouve. Le cours Émile Zola à Villeurbanne, où l'on découvre avec le journal Le Progrès de Lyon que se situe à la fois le siège de la rédaction locale du Progrès, d'où le retour en fait du nom Zola. On trouve aussi le cinéma Le Zola dans ce cours Émile Zola de Villeurbanne. On trouve la maison François Mitterrand de l'Image et du Son. Mais on pourrait ajouter que on apprend que à Rennes, il y a une rue Émile Zola, à Tours, à Troyes, à Saint-Mexan. On découvre un gymnase Émile Zola, un collège Émile Zola à Royan, à Belleville-sur-Seine, à Choisy-le-Roi, à Béthune. On découvre l'école Émile Zola de Salomine, près de Lens, ou bien à Nancy, Narbonne ou Mainvilliers, et je n'oublie pas le lycée Zola d'Ennebon dans le Morbihan. Donc autant de lieux qui font remonter le nom de Zola dans l'actualité locale et qui l'amènent dans notre base de données. Alors bien sûr, on pourrait en première instance se dire que la liste des résultats sportifs de tous les collèges du Morbihan ou le récit des fêtes locales dans la région lyonnaise, on peut avoir avec le patrimoine littéraire zolien. Et pourtant, on ne peut pas exclure que ces désignations soient elles aussi porteuses d'un imaginaire collectif qui parfois peut être subitement réactivé. En fait, ces inscriptions de la mémoire zolienne dans une réalité territoriale font partie des éléments qui transforment l'écrivain en monument. C'est-à-dire ce dont on doit se souvenir. Par exemple, à Royan, les lieux nommés Zola portent le souvenir de ce que j'appellerais les vacances de Monsieur Zola. Et l'édition Charente-Maritime du quotidien local Sud-Ouest ne manque pas de ranimer ce souvenir l'été à la faveur de feuilletons qui évoquent par exemple les différentes villas occupées par Zola sur la Côte de Beauté entre 1887 et 1888. Dans les grandes agglomérations, les espaces portant le patronyme zolien sont souvent des espaces anciennement industriels et donc politiquement un jour marqués à gauche. Et donc, le nom de l'écrivain dessine une géographie à la fois sociale et politique qui, parfois, se réactive dans la mémoire. Un exemple, le 28 septembre 2002, le Progrès rapporte la colère des habitants de HLM insalubres, envahis par les rats et les cafards. Voici le titre de l'article. Rue Émile Zola, ils accusent. Un phénomène de dilution, donc, de la mémoire zolienne dans cette dimension patrimoniale, qu'on pourrait dire finalement infraordinaire. Mais un phénomène aussi d'extension de cette mémoire dont la presse nous donne la mesure. La circulation de la figure zolienne dans la presse atteste en effet d'un phénomène de patrimonialisation internationale. Émile Zola, vous le savez peut-être, c'est le nom d'un prix littéraire qui a été décerné par la Société des gens de lettres entre 1918 et 1992. Ce prix était attribué à un roman paru dans l'année, il avait été doté par Madame Zola à sa mort d'un petit capital. Et on trouve toutes sortes de coupures de presse attestant de la médiatisation de ce prix. Mais ce que vous savez peut-être moins, enfin je l'ai découvert moi, c'est que Émile Zola est aussi le nom d'un prix qui est décerné chaque année depuis 2012 par le College of Management Academic Studies, qui se trouve, comme son nom ne l'indique pas, à Tel Aviv. Prix décerné par the Émile Zola Chair for Human Rights, et qui, en 2015, a été attribué à un danseur israélien. Voilà le prix Émile Zola. Enfin, Zola, ou plutôt Zwo-la, je dois mal le prononcer, c'est aussi le nom que s'est choisi un blogueur de nationalité chinoise, Zhu Xugang, qui, entre 2007 et 2008, inscrit sa lutte courageuse pour la liberté d'expression sous le nom de la figure zolienne. Voici comment titre Marianne, pour parler de cette action, Zola ou les tribulations d'un blogueur chinois en Chine. Voilà quelques éléments pour penser Zola institué ou le devoir de mémoire. J'en viens maintenant au deuxième processus de patrimonialisation qui est Zola actualisé et ce que j'appellerais l'éphémérite zolien. Donc la valeur d'historicité du nom de Zola, elle est attestée par ses circulations médiatiques hein, dont la presse porte la trace. Mais la valeur d'ancienneté du patrimoine zolien, c'est-à-dire l'expérience sensible de la distance qui nous sépare de cette histoire zolienne. Cette valeur d'ancienneté, elle repose, elle, sur le travail de l'actualisation. C'est à ce titre, en effet, c'est en redevenant actuel que le monument zolien acquiert une valeur de contemporanéité. Alors, la question est, à mesure que le temps de Zola s'éloigne de nous, comment notre actualité rencontre-t-elle celle de la figure zolienne ? Quelles sont finalement les scansions de ce qu'on pourrait appeler l'éphémérite zolien ? Je reprends le nom que donnaient les Leblon à la biographie de Zola dans l'entre-deux-guerres. Ici, on peut repérer deux calendriers. Donc deux calendriers parallèles qui parfois se croisent. Un calendrier qui pourrait être désigné comme un calendrier commémoratif et républicain d'abord, politique, et un second calendrier qui est un calendrier culturel. Donc un calendrier commémoratif ou républicain, ici on s'inscrit clairement dans la même logique que celle des Leblon père et fils, quand dans l'entre-deux-guerres, ils ont repéré les articles de presse célébrant les commémorations. Simplement, c'est un calendrier commémoratif raréfié, nettement raréfié, par rapport à ce qu'on a pu lire dans les cahiers naturalistes. Au temps de Maurice Leblon, et encore à l'époque de son fils Jean-Claude, l'éphémérite zolien compilait des articles de presse célébrant de multiples commémorations. Par exemple, cinquantenaire de l'apparition de Germinal, 1935. Cinquantenaire de la publication de La Terre, 1937. Célébration de la mort et de la naissance de l'écrivain chaque année. Célébration de la publication de J'accuse, même en dehors des siècles ou des demi-siècles. Par exemple, en 1950, un article du Monde daté du 15 janvier rapporte que des étudiants parisiens manifestent devant le Panthéon pour associer l'anniversaire de J'accuse à une protestation contre l'antisémitisme. 13 janvier 1950, donc, ces étudiants se réunissent devant le Panthéon pour protester contre des articles antisémites parus dans le journal Contre-Révolution. Face aux risques représentés pour l'ordre public, écrit Le Monde, les agents, j'ai retenu cette citation parce qu'elle m'intrigue, ont fait usage de leur pèlerine. Je pense que ce ne sont pas des grenades de désencerclement. Dans les années 80 encore, le pèlerinage de Médan donnait lieu à des annonces et des comptes rendus dans la presse quotidienne. En 87, Le Monde annonce la tenue du traditionnel pèlerinage de Médan. La rubrique Agenda, chaque année, mentionne l'événement à venir et en rend compte après la tenue de l'événement. Alors, au tournant des 20e et 21e siècles, le calendrier commémoratif de la mémoire zolienne s'est beaucoup amaigri. Il se concentre autour de deux pics qui suscitaient déjà dans l'entre-deux-guerres la plus forte production médiatique. Ces pics, ce sont les années en deux, c'est-à-dire anniversaire de la mort de l'écrivain, et les années en huit, qui célèbrent à la fois la publication de J'accuse et la panthéonisation. Donc dans ma période, tournant 20e, 21e siècle, les trois années qui font apparaître le plus grand nombre d'articles sont 1998, 2002, 2008. Donc le spectre médiatique, dans ces années en 2 et en 8, peut s'avérer particulièrement large. Par exemple, en 1998, le centenaire de J'accuse donne lieu à une très forte couverture médiatique. 8 articles, rien que pour Le Monde, l'ouverture de tous les journaux télévisés sur le centenaire, un mea culpa mémorable du Figaro, qui écrit en 1998, en cessant d'accueillir Zola, le Figaro ne s'est pas montré courageux. Et puis, toutes sortes d'articles, même dans la presse économique, comme les Échos. 10 ans plus tard, en 2008, c'est l'anniversaire de la panthéonisation. Et cet anniversaire est célébré par toute la presse, La Croix, Libération, Télérama, et même Valeurs Actuelles, qui va rendre hommage à Zola à grand renfort de citations de Léon Blois, ce qui est assez fort. Le Parisien mentionne l'anniversaire de la panthéonisation dans la rubrique Insolite en écrivant ceci. Il y a 100 ans, Émile Zola entrait au Panthéon, rubrique insolite, ce qui est suivi par le jardin d'acclimatation Ton ses moutons. En 2002, le centenaire de la mort de Zola, lui aussi, a réuni tout le spectre de la presse nationale et régionale. Donc de l'Humanité au Figaro, en passant par La Croix, les Échos, La Nouvelle République, Le Point, l'AFP, etc. Cette fois, l'événement, j'y reviendrai, est clairement politique, puisque le président en exercice, Jacques Chirac, se rend au pèlerinage de Médan. Cette première actualisation, donc commémorative et républicaine, est raréfiée, mais large. En revanche, l'actualisation culturelle connaît-elle un calendrier beaucoup plus autonome. Et cela repose sur un phénomène dont Zola lui-même avait été très conscient de son vivant. Cette actualisation culturelle repose sur ce que j'appellerais la circulation transmédiatique de l'œuvre zolienne. On le sait, Zola a très tôt saisi le caractère absolument crucial de l'adaptation de son œuvre dans d'autres supports pour en assurer une forte circulation dans l'espace culturel de son temps. Après la mort de Zola, les transpositions de la fiction dans d'autres supports s'enrichissent à chaque nouveau support disponible. À chaque innovation médiatique, donc, Zola est réactualisé et revit culturellement. Bien sûr, le cinéma, très tôt, dès les années 20, 1919, Abel Gance réalise J'accuse. Et puis, on a vu hier le film de Marcel Lherbier, 1920, Renoir, etc. On pourrait aussi citer la télévision. En fait, chaque innovation médiatique fait apparaître une relecture et une recréation de l'œuvre zolienne. On peut citer la radio, 1952, adaptation de l'attaque du moulin en pièce radiophonique. Mais quand la télévision devient une télévision couleur, quand la télévision passe à la couleur, eh bien immédiatement on expérimente ce nouveau média par une adaptation de l'œuvre zolienne. C'est le réalisateur Pierre Cardinal qui réalise l'œuvre en téléfilm couleur en 1960 et qui explique, en 67, pardon, qui explique que l'usage de la couleur lui a permis de prouver que Zola, écrivain de son époque, je le cite, qui a le moins compris la peinture impressionniste, était un romantique et non un naturaliste. Donc cette réactualisation médiatique de l'œuvre zolienne, elle continue jusqu'à l'époque actuelle, puisqu'en 2012, quand la bibliothèque iBooks offre des romans gratuitement au téléchargement, eh bien c'est encore un roman zolien qui va être proposée dans cette offre. Donc cette filiation transmédiatique de l'œuvre zolienne dans la presse suscite une couverture qui peut ou pas se synchroniser avec le calendrier des commémorations. Et cela, c'est le mode de vie de l'actualité culturelle. Ainsi, l'année 2002, centenaire de la mort de Zola, voit à la fois réaliser un téléfilm d'après Thérèse Raquin, mais aussi l'exposition BNF, la publication du dernier volume de la biographie d'Henri Maitran. Mais je n'oublierai pas ce que nous apprend la Nouvelle République du Centre, c'est-à-dire que la compagnie Le Mouton à cinq pattes, en 2002, propose une mise en scène de J'accuse. Alors d'un côté, donc un calendrier commémoratif qui suscite, qui célèbre la biographie zolienne autour des engagements de l'écrivain. De l'autre, une actualité culturelle qui donne à lire un potentiel de circulation, finalement, de l'œuvre zolienne dans tous les supports de la vie culturelle. Finalement, ce qu'on retrouve avec cette exploration de la base de données, c'est cette double polarité de l'œuvre de la figure zolienne dans la presse dont on essaye désespérément de se débarrasser. Cette figure des deux Zola. Et là, je vais faire un petit exercice d'humanité numérique, modeste, que j'ai confié à un jeune chercheur très virtuose là-dedans. Donc j'ai essayé de proposer des visualisations. Enfin, plutôt, il a proposé des visualisations avec un logiciel qui s'appelle Iramutech, dont j'aurais du mal à vous décrire le fonctionnement précisément parce que je n'ai pas complètement compris. Donc ici, deux visualisations différentes en arbre, ça s'appelle comme ça, et en nuage. Alors, donc ce jeune chercheur, qui s'appelle Pierre-Carl Langlais, a interrogé la presse nationale sur un corpus énorme, hein, ça fait 260 pages de texte si on les publie, allant de 2011 à 2016, donc sur 5 années simplement. Voici les deux graphes qu'on peut voir avec cette fouille textuelle qui recherche soit les mots, soit les segments de texte et qui après va proposer des classements automatisés des grands ensembles qu'on peut en tirer. Et ce qu'on voit dans les deux cas, c'est deux ensembles thématiques dominants. Les mots les plus gros sont les plus cités. Alors si j'arrivais à me rendre plus familière à ce type de méthode, je dirais qu'on pourrait y voir la visualisation de ce que Foucault appelle des nexus de régularité, c'est-à-dire la concentration dans des énoncés circulants d'un certain type de thématiques qui reviennent. Et ce sont les deux mêmes ensembles qu'on retrouve dans un cas et dans l'autre. C'est un ensemble de termes renvoyant au grand homme, et notamment au grand homme engagé dans l'affaire. Vous voyez ici Zola, Bibliothèque, Dreyfus, et ici grand. Zola, c'est grand. Et d'autre part, un ensemble d'items qui renvoie plutôt à l'artiste. Avec une surprise ici, c'est que sur 2011-2016, dans l'ensemble bleu, on renvoie Zola à Manet, la peinture, etc. C'est lié à une actualité culturelle. Dans les nuages bleus, l'ensemble artiste-peinture, dans le nuage vert, plutôt le grand homme et son action politique. Et ce qui est systématiquement renvoyé au second plan, ce sont tous les éléments qui entrent dans les thématiques traitées par l'œuvre zolienne, et notamment tout ce qui renvoie aux politiques, au peuple, au social. Tout cela est renvoyé finalement à l'arrière de la mémoire. Si bien qu'on peut poser cette hypothèse que l'actualisation, qu'elle soit commémorative ou culturelle, de la figure zolienne, repose bien sur une transformation de l'héritage dont on peut analyser la teneur comme un phénomène de pacification de la figure zolienne. Et j'en viens donc à ma troisième approche, ma troisième hypothèse, la nationalisation de l'écrivain ou Zola pacifié. Je reviens à la bibliographie des Leblon. Quand on lit cette bibliographie, on constate que l'entre-deux-guerres résonne des différents débats, des polémiques parfois très violentes auxquelles l'œuvre zolienne pouvait donner lieu. Je vous donne quelques exemples. 1928, c'est ce que j'avais analysé pour le colloque du Panthéon, une querelle autour de la présence, de la coprésence de Zola et de Hugo dans le même caveau du Panthéon. Donc cette polémique suscitée par les descendants de Hugo qui voudraient que Hugo remonte et soit séparé de Zola. Donc querelle du Panthéon. Mais on peut évoquer aussi la même année la querelle autour de la publication des lettres de Zola au Goncourt. Le Temps titre en 1928 « L'affaire Zola à Goncourt » et l'Action française titre « Déroute des cloportes ». On pourrait citer l'affaire Zola-Mallarmé 1929. quand les héritiers du poète s'opposent à leur tour à la publication de la correspondance. Titre de l'œuvre, Mallarmé séquestré. On pourrait citer les dizaines de titres de presse qui accompagnent la commémoration du cinquantenaire de la publication de La Terre. En 1937, cet anniversaire est célébré en grande pompe. On organise une grande excursion touristique et littéraire dans la Beauce. Et l'Action française titre « La glorification du sacrilège ». Évidemment, plus rien de semblable dans la presse des années 2000. Il semble bien que la monumentalisation de la figure zolienne s'accompagne d'une sorte de déminage systématique de tout ce qui pouvait susciter conflit ou dissension dans la figure zolienne. Alors ce déminage peut s'appliquer à des points de tension anciens qui, pour certains, sont relativement anecdotiques. Par exemple, j'ai eu une petite polarisation, une petite fascination sur la question des timbres à l'effigie d'Émile Zola, genre d'objet où il y a des portraits et qui m'intéresse. En 1952, on apprend dans le journal Le Monde que les amis d'Émile Zola se sont recueillis devant le Panthéon, non, sur la tombe au Panthéon, le 29 septembre, pour le 50e anniversaire de la mort de Zola. Ce cortège est assez fourni, on y voit des représentants du gouvernement, des membres du Parti radical socialiste. À la suite de ce recueillement, l'association des amis d'Émile Zola sollicite auprès du ministère des PTT la réalisation d'un timbre à l'effigie de Zola. Eh bien, le ministre des PTT refuse cette réalisation. À l'inverse, en 2002, c'est le centenaire de la mort d'Émile Zola. Et là, non seulement on va réaliser un timbre, mais même on va gonfler le geste philatélique, ce que j'appellerais le geste philatélique, dont la rubrique Philatélie du Monde va rendre compte. Non seulement on réalise un timbre qui est décrit par cette rubrique philatélique qui depuis a disparu, qui est décrit donc, je cite, comme un des timbres les plus remarquables parmi les 600 que compte à son actif son auteur Jean-Paul Véret le marinier, mais en plus, la vente du timbre est mise en œuvre dans trois lieux exceptionnels, la mairie du 9e arrondissement, l'office du tourisme d'Aix et Médan, où un bureau de poste provisoire propose une oblitération temporaire, c'est le nom, avec la mention « J'accuse ». Bon, alors je tords un peu la réalité parce que ce n'est pas tout à fait le premier timbre zolien. En fait, en 1967, il y avait déjà eu un timbre Zola. Et puis, j'ai découvert par mon exploration numérique qu'en 1995, il y avait eu un timbre israélien aussi. Un timbre qui, lui, célèbre un autre centenaire, la dégradation de janvier 95, qui reproduit « J'accuse » dans l'aurore. On remarque la différence entre le timbre de 1967, à l'arrière duquel figurent des images extraites de Germinal, et le timbre de 2002, gros plan sur la figure et plus aucun renvoi au contenu de l'œuvre. D'un côté, voilà pour ce qui est du timbre, de ce que nous donne à voir cette question des figures zoliennes dans les gestes philatéliques. Ce qui est moins anecdotique peut-être, c'est la confrontation entre différentes modalités de célébration de l'engagement zolien dans l'affaire Dreyfus. Et là, je confronterai deux cas symétriques qui me semblent emblématiser la nationalisation de la figure zolienne. Deux cas qui sont à l'exact basculement entre le XXe et le XXIe siècle. D'un côté, au XXe siècle, 1998. Donc 1998, ce sont les cérémonies autour du centenaire de J'accuse. Et je sais bien à quel point les Zoliens et Alain ont joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces célébrations. Donc les célébrations du centenaire donnent lieu à une intense médiatisation. Elles sont aussi le lieu, je l'ai découvert, je l'ignorais, d'une étonnante, peut-être ultime réactivation de la force clivante propre à l'engagement zolien. C'est ce qu'un jeune historien en sciences politiques appelle Dreyfus, l'affaire de Jospin. On est en pleine cohabitation et la majorité de gauche est en difficulté. Une mobilisation sociale très forte en janvier 98 met en fragilité le gouvernement. Lionel Jospin, alors Premier ministre, va subitement briser l'unanimisme de la commémoration de 1998. Cela se passe à l'Assemblée, donc le 15 janvier 1998, une semaine après que Jacques Chirac a envoyé une lettre aux descendants de Dreyfus et de Zola, lettre elle-même fortement médiatisée. Et donc à l'Assemblée, voici ce que Lionel Jospin déclare. On sait que la gauche était dreyfusarde et on sait que la droite était anti-dreyfusarde. Pour Dreyfus, on se souvient des noms de Jaurès, de Lucien R., du nom de Gambetta. Mais j'aimerais qu'on me cite des personnalités des partis de droite de l'époque qui se sont dressés contre l'iniquité. Cette déclaration suscite une telle colère que les élus de droite quittent l'Assemblée et que certains, comme François Bayrou, vont accuser Lionel Jospin d'avoir, je cite, rompu le pacte républicain et réclament sa démission. Le Figaro titre « Lionel Jospin accuse et dérape ». Et dans la description de l'atmosphère de l'Assemblée ce 15 janvier 1998, il y a quelque chose de 1898. Un article du Monde, 15 janvier 1998. Je cite le début, « grouillant d'hommes en costume cravate, entassés dans les travées, les visages ulcérés, rouges comme les sièges du Palais Bourbon, le geste menaçant en direction du Premier ministre, l'hémicycle semble un moment envahi. À ce moment, le face-à-face est si tendu que le député des Hautes-Pyrénées prévient son voisin du Puy-de-Dôme, Jean-Paul Baquet, « s'il y a de la baston, on y va ». Jean Glavany, « s'il y a de la baston, on y va ». Alors, on est en 1998. 4 ans plus tard, 2002, on est au 21e siècle. C'est le centenaire de la mort de Zola. Le contexte a changé puisque la cohabitation a laissé place au traumatisme du 21 avril 2002. Au pèlerinage d'octobre, c'est le président Jacques Chirac qui prononce le discours d'hommage. Et on comprend à la lecture de son discours, qu'il s'agit de réécrire une nouvelle fois l'héritage de l'affaire à la lumière de l'événement du 21 avril 2002. Quand j'accuse divisé en 1998, Zola incarne en 2002 la réconciliation républicaine. Ce discours de 2002, il est annoncé puis relayé par tous les médias nationaux et régionaux, de l'AFP à la Nouvelle République en passant par Le Parisien et bien sûr les cahiers naturalistes. C'est la dernière étape que j'évoquerai dans ce que j'appelle la nationalisation de l'écrivain. Dernière étape par dernier jeu sans doute de filiation inversée, où finalement la figure de Zola est brandie face à la figure de l'extrémisme et de l'adversaire du second tour du Front National. Voici le discours de 9 octobre 2002 dans Le Monde, discours prononcé le 6 octobre 2002, voici un extrait. Au moment où la France vient de rappeler avec force son attachement aux valeurs de la République et son rejet de tous les extrémismes et de toutes les exclusions, j'ai voulu avec vous, dit Chirac, saluer la mémoire de celui qui fut au tournant du siècle dernier l'un des symboles les plus admirables du combat pour les principes et pour les idéaux qui fondent de notre nation. Parler d'Émile Zola, déclare Jacques Chirac, c'est en réalité parler tout simplement de la France. Honorer la mémoire de Zola, c'est réécrire l'héritage à la faveur de l'actualisation des valeurs politiques contemporaines. C'est même finalement revoir toute la chaîne des filiations, puisque, voici ce qu'écrit Jacques Chirac, c'est de cette France dont Zola est le fils, c'est à travers la défense de ses valeurs qu'il est notre contemporain. Il est notre contemporain par ses valeurs dont nous le déclarons le fils. Voilà, donc Zola nationalisé, je finirai là-dessus, en renvoyant au sondage mentionné par le texte d'appel et qui est mentionné aussi dans le numéro du magazine littéraire. Donc ce sondage qui a été commandé par Pierre Assouline pour le magazine littéraire auprès de l'agence Harris Interactive. Ce sondage, le premier publié comme par une blague, le 1er avril 2015 dans le magazine littéraire, proposer aux sondés de répondre à la question suivante. Parmi les écrivains suivants, lesquels incarnent selon vous le mieux la France, sa culture, sa langue, son génie, tant dans notre pays qu'à l'étranger? Le nom de Zola, vous l'avez vu, arrive en 3e place. Après Hugo, toujours premier, et Molière, 2e. J'aurais voulu d'ailleurs faire des petites visualisations de Hugo comparé à Zola, et puis mon jeune chercheur n'a pas eu le temps. Donc, je note donc non seulement ce trio gagnant, mais aussi, je ne sais pas trop quoi en faire, mais que dans les 1006 personnes interrogées selon la méthode de l'échantillon représentatif, les femmes votent plus Zola et les hommes plus Hugo. Allez savoir pourquoi. Donc, que Zola soit désormais un de nos monuments nationaux. Rien ne le prouve peut-être plus que ce type de sondage, mais encore plus peut-être la dernière actualisation que j'ai notée dans mon corpus, actualisation à la faveur de la triple cérémonie de panthéonisation décidée par François Hollande au printemps 2015. Alors que la légitimité de la présence de Zola au Panthéon a longtemps été un objet de débat, un objet de polémique, c'est toujours à son nom que l'on renvoie dans tous les articles célébrant la panthéonisation. Je cite Le Figaro, Le Panthéon pour les nuls, 27 mai 2015, comme Le Monde, 6 questions sur les grands hommes du Panthéon. Et toujours, le nom de Zola revient parmi les noms cités. Voilà donc un peu ce qu'on peut dire sur ce mouvement de la figure zolienne, cette circulation de la figure zolienne, qui garantit sa présence au quotidien hein, dans une mémoire nationale stabilisée et médiatisée, et l'inclut aussi dans une série de grands hommes dont il a longtemps été une sorte d'hôte compliqué, mais peut-être en neutralisant un peu la force vive de son œuvre de combat. Voilà, je vous remercie.